Bien, bonsoir et merci beaucoup d'être venus nombreux pour cette rencontre du cycle La Création à l'œuvre qui nous vaut ce soir l'immense plaisir d'accueillir un chorégraphe majeur de la danse contemporaine, Angelin Preljocage, qui depuis 1996 dirige le Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, où il s'est installé avec sa compagnie, le ballet Preljocage et ses 26 danseurs. Tous ont investi depuis 2006 le pavillon noir conçu par l'architecte Rudy Ricciotti sous l'égide d'Angelin Preljocage qui en a fait un haut lieu de la danse. D'origine albanaise, formé tout d'abord à la danse classique et au judo, puis à la modernité avec Karine Weiner et Merce Cunningham, Angelin Preljocage a depuis sa première chorégraphie, Marché Noir, en 1985, chorégraphié 47 pièces d'une grande diversité de formes, du solo au grand ballet. Sa toute dernière création, Les Nuits, inspirée des Mille et Une Nuits et du personnage de Scheherazade, vient d'être présentée la semaine dernière à Aix-en-Provence. Dans cette création foisonnante, Angelin Preljocage aime alterner les styles et explorer sans cesse de nouveaux domaines en remettant tout en jeu pour chaque création. Ses chorégraphies s'élaborent autour de langages divers, narratifs, oniriques ou abstraits. Il s'inscrit ainsi dans la filiation des grands ballets qu'il revisite, en particulier ceux de Stravinsky avec Noce, Le Sacre du Printemps. Il fait une relecture de Parade, de Roméo et Juliette. Il aborde de nouveaux grands ballets contemporains, tels Blanche-Neige et Les Nuits. Dans le même temps, il alterne des chorégraphies plus abstraites, comme Empty Moves, composé de mouvements inspirés par les paroles et phonèmes lus par John Cage, Annonciation, dansé par un duo, Near Life Experience, qui évoque des états d'extase, ou encore Hélicoptère et Eldorado, sur des compositions de Karl-Heinz Stockhausen. Angelin Preljocage aime les complicités artistiques et s'associe régulièrement avec d'autres artistes, comme le duo pop électronique R, Karl-Heinz Stockhausen, je l'ai dit, pour la musique, Enki Bilal, Aki Kuroda, Claude Lévesque, Fabrice Hibert pour les décors, Jean-Paul Gaultier, Azine Alaya pour les costumes. La littérature est très présente dans son écriture chorégraphique. Il a ainsi chorégraphié L'Anour sur un texte envoûtant que lui a écrit Pascal Quignard, interprété lui-même en solo un texte de Jean Genet, Le Funambule, et s'est emparé l'an dernier, en 2012, du texte de Laurent Mauvigné, Ce que j'appelle oubli. Angelin Preljocage est un des chorégraphes les plus invités et les plus célébrés dans le monde. Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes. C'est le cas notamment du New York City Ballet, de la Scala de Milan, du Staatsoper de Berlin et du Ballet de l'Opéra National de Paris. Angelin Preljocage est du reste particulièrement soucieux de la notation de ses chorégraphies, selon le système Bénèche, dont il nous parlera peut-être, qui permet leur conservation et de nouvelles interprétations. J'ajoute qu'Angelin Preljocage a réalisé lui-même plusieurs films et collaboré à plusieurs réalisations cinématographiques en mettant en scène ses propres chorégraphies. Voilà, je crois qu'il est temps que je lui donne la parole pour qu'il nous parle du processus de création qui sous-tend tout ce travail. C'est Philippe Noisette qui va conduire l'entretien. Philippe Noisette est journaliste, spécialiste du spectacle vivant et auteur de plusieurs ouvrages sur la danse, dont le tout dernier, Danse contemporaine, mode d'emploi, est paru chez Flammarion en 2010. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonsoir à tous, merci d'être présents, merci à Angelin d'être avec nous. Angelin qui a eu une semaine agitée, une création mondiale avec Aix-en-Provence, et puis là je crois que la tournée a déjà commencé, vous arrivez de Parme. Donc voilà, on va essayer de raconter un petit peu tout ce que on vient d'entendre, mais on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails. d'essayer de comprendre comment la création chorégraphique peut naître. On a parlé tout à l'heure de notation, on va essayer d'aborder différents thèmes. Peut-être que la première chose que j'ai envie de vous poser, c'est vous m'aviez dit un jour que votre environnement familial n'était pas un environnement artistique. Il n'y avait pas visiblement de danseurs dans votre famille. Et donc j'ai envie de savoir comment la danse a fait irruption dans votre parcours, dans votre univers.
Alors, la danse est arrivée presque par accident, presque par effraction dans ma vie de fils d'immigrés albanais. Vous savez, dans ma famille, je me rappelle de mon enfance où il y avait vraiment deux univers très distincts. Il y avait chez moi et puis il y avait dehors, il y avait ailleurs. Et ailleurs, c'était la France, c'était l'école de la République, c'était des auteurs, des valeurs, des traditions que je découvrais. Et chez moi, c'était, je dirais, plus proche des ténèbres. Parce que mes parents sont des montagnards de l'Albanie. Et donc, pas très cultivés. Mais pour autant, extrêmement sensibles, touchants, intelligents, enfin... Mais quand même, il y avait vraiment deux mondes qui s'affrontaient dans mon enfance, qui étaient ces deux choses-là. C'est-à-dire, quand je passais la porte de chez moi, j'étais vraiment ailleurs. Et donc, la danse, c'était sûrement pas quelque chose qui faisait partie de mon environnement, pas plus que la musique qu'on peut entendre actuellement, là. Enfin, j'entendais de la musique traditionnelle albanaise chez moi. Mais la musique classique, je connaissais pas, la littérature non plus, il y avait très peu de livres à la maison, enfin bon, voilà, c'était... Voilà, alors la danse est arrivée par l'intermédiaire d'un livre qu'on m'a prêté quand j'avais 12 ans, voilà, qui parlait de la danse, et j'étais saisi vraiment par une photographie de Rudolf Nureyev, qui était suspendu dans un seau, une cabriole pour les connaisseurs. Et il y avait une telle beauté dans son visage qui était vraiment lumineuse de l'intérieur. Enfin, vraiment pas une beauté de surface, mais une beauté intérieure. Et je me rappelle surtout de la phrase qui était en exergue et qui disait « Rudolf Nureyev transfiguré par la danse ». Et il y avait ce personnage suspendu dans sa beauté, dans sa légèreté, dans sa puissance aussi. Et je dois dire que mon regard faisait la navette entre la légende de la photo et la photo. Et quand j'ai rendu le livre à la jeune fille qui me l'avait prêté, je lui ai demandé où est-ce qu'elle faisait de la danse. Et je suis allé prendre mon premier cours avec mon pantalon de kimono de judo. Oui.
Parce qu'on a parlé de judo voilà. Tout à l'heure, donc ça vous sert.
Parce que je faisais du judo à l'époque, voilà. Et donc ça a été un premier choc, une première révélation pour moi qui m'a lâché un peu et qui m'a repris à 18 ans quand j'ai rencontré Karine Weiner. Donc là, la danse classique et voilà qui m'a emporté jusqu'à aujourd'hui.
Oui, j'imagine qu'à 12 ans, on pense que ça peut être une distraction, la danse. On ne voit pas ça comme un...
Oui, puis on en fait deux fois par semaine. Ouais. Enfin, voilà. En même temps, j'étais quand même très, très passionné. Hein, mais voilà, oui.
Et vous étiez le petit garçon dans un cours
J'étais le seul garçon, oui.
Comme ouais. Souvent.
Mais comme souvent, hein, ça n'est pas du tout une originalité. Enfin, surtout à l'époque, parce que de nos jours, la danse est déjà plus répandue. Et puis, je crois que le hip-hop a fait énormément pour la danse. Pour la masculinité de la danse, pour rendre un peu aux hommes ce désir de danser, cette sorte de merveilleuse activité qu'est la danse, quoi. Parce que souvent, on considérait à mon époque que c'était pas pour les hommes. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, ma mère et mon père étaient contre. Curieusement, ma mère travaillait à l'usine et quand je lui ai dit que je voulais faire de la danse, elle n'a pas tellement réagi et elle a demandé à ses camarades de ses collègues de travail. Elle dit « Mon fils veut faire de la danse ». Et elle a eu des réactions extrêmement violentes et négatives. Et après, elle a été très négative sur ça, au point de découper mes collants pour m'empêcher d'aller encore faire de la danse. Enfin, c'était très, très violent, en fait. Ouais. Ouais.
L'interprète que vous allez devenir, vous parliez de Karine Wenner et donc des premières rencontres, des premiers cours, l'interprète que vous allez devenir, on est sans doute dans les années 70, fin 70, pense avant tout à danser, vous ne pensez pas à chorégraphier à l'époque. C'est le plaisir de plaisir d'être sur scène, le plaisir d'interpréter, d'être un outil au service de l'autre qui vous...
Oui, 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 mais en même temps, quand je réfléchis, quand j'ai arrêté la danse classique à un moment parce que je voyais pas de champ de créativité, en fait. C'est-à-dire que je voyais bien qu'on pouvait devenir un très bon interprète, mais j'arrivais pas à sentir qu'il y avait un lieu d'invention, en fait. Et c'est avec Karine Wenner que j'ai compris que ce que je voulais, c'était inventer des choses. Mais j'en avais pas conscience directement, mais le fait de réenclencher la danse avec Karine Wenner, montre bien que ce qui m'intéressait, c'était l'invention, en fait. C'est-à-dire de faire émerger des mouvements, peut-être qu'on aurait, peut-être jamais vu avant, ou enfin, cette espèce de prétention un peu folle. Mais en même temps, c'est ça qui fait rêver, en fait. Vous savez, je pense souvent à Dostoïevski qui disait qu'il s'attaquait toujours à des thèmes qu'il dépasse, en fait, pour pouvoir se hisser à la hauteur de ces thématiques-là. Bah là, l'idée d'un jeune homme qui dit qu'il voudrait bien inventer des mouvements qu'on n'a jamais faits, c'est un peu la même chose, mais sauf que c'est de la pure... Mais en même temps, c'est une énergie, c'est un moteur.
Et là, on arrive à ce moment, ce tournant, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la danse, notamment de la danse contemporaine française, fin des années 70, début des années 80, il y a un boom de la danse, on voit arriver un petit peu de partout, d'ailleurs parfois on les connaissait pas auparavant et d'un seul coup des noms comme ça circulent, Maggie Marin, Galotta, bientôt le vôtre, on voit une émulation assez particulière, vous qui êtes ce jeune danseur qui a envie d'expérimenter, y compris sur son corps. Comment le vivez-vous, ce boom? Est-ce que c'était quelque chose qui vous réunissait tous? Est-ce que c'était chacun pour soi? Ou est-ce que c'était vraiment une fraternité de la danse?
Alors, il y avait d'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est surtout ma rencontre avec Dominique Bagoué qui m'a mis le pied à l'étrier de la création, vraiment, en fait. Avant, c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à être interprète, mais le fait de travailler pour lui, dans sa compagnie, avec des processus de création tout à fait nouveaux pour moi, ont été extrêmement déclencheurs. Karine Wenner m'a donné le goût de me remettre à la danse contemporaine et Dominique Bagoué m'a fait comprendre que la création était possible réellement, en fait. Et c'est là où vraiment j'ai appris énormément. Et ensuite, après 2 ans dans la compagnie de Dominique Bagoué, je me suis retrouvé à Paris et c'est là qu'il y avait cette sorte d'effervescence qui se cristallisait principalement à la Ménagerie de Verre, rue Léchevin, dans le combienième ?
Dans le 11e.
11e. Et là, il y avait une effervescence, il y avait une dynamique incroyable, tout le monde était là, il y avait des Coufflets, Larieux, Maggie Marin, enfin tout le monde passait par là. Et c'était assez incroyable. On sentait vraiment un courant comme un fleuve extrêmement puissant qui emporte tout le monde. Oui, ça c'est vrai.
Et qui vous emporte, vous, parce que c'est l'époque de vos premières pièces.
Oui.
Il y a peut-être une chose, parce qu'on parle de la
ménagerie. C'était drôle parce qu'à la Ménagerie de Verre, je préparais le concours de Bagnolet.
Voilà, j'en ai parlé du concours.
J'ai un trou de mémoire. Enfin bref, là se préparaient tous les gens qui faisaient Bagnolet travaillaient là, louaient des studios pour préparer le concours, quoi.
le concours qui était une rencontre qui s'appelait au départ Ballet pour demain, je crois.
Oui.
Si je ne me trompe. Donc il avait vraiment une connotation plus classique au départ. Et puis au fur et à mesure, il devient un concours dans un sens plus général. Se rencontrent des danseurs contemporains, mais aussi sans doute, j'imagine, des danseurs jazz ou néo-classiques. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce concours où à peu près tous les danseurs qui ont fait ces années 80 vont se présenter, ce concours va réunir, en fait, ou va vous permettre d'entrer dans la lumière, parce que c'est quand même là que vous allez être opéré. Vous avez été lauréat.
Oui.
Avec une pièce
oui,
qui s'appelait...
Oui, en fait, mais d'abord, il y avait eu l'inauguration du Théâtre Contemporain de la Danse, où Christian Tamet avait invité un duo que j'avais fait avec Michel Kelemenis. Et là, à cette soirée, il y avait les grands chorégraphes français de l'époque, plus deux inconnus qui étaient Michel Kelemenis et moi-même. Et là, on a eu cette première, je dirais, ce premier coup d'accélérateur. Et puis ensuite, donc, la Ménagerie de Verre avec Marie-Thérèse Allier qui mettait à disposition les studios pour les jeunes prétendants au concours de Bagnolet. Et puis, effectivement, le prix du concours, c'est quelque chose qui, tout à coup, vous donnait une sorte de carte de visite, quand même. Mais en même temps, c'est un moment où il fallait battre le fer, il fallait continuer, il fallait pas s'arrêter à cette espèce de réussite un peu éphémère, hein, quand même.
Il y avait une urgence.
Oui, il y avait une urgence et puis il y avait une vitalité. Et puis je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y avait une curiosité absolument incroyable de tout le monde, que ce soit les journalistes, les programmateurs, enfin tout le monde voulait, s'intéresser à la danse qui émergeait. En même temps, tout ça, on peut très bien voir que c'est vraiment une vraie question politique. Alors là, je pose la question vraiment aujourd'hui. Ça veut dire qu'on sentait bien à l'époque que tout ça, c'était... nous, on était contents, évidemment, mais tout ça procède d'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des engagements politiques, il y a eu de l'argent, il y a eu des décisions qui ont été prises en amont qui ont permis l'émergence de tout ça.
Une volonté.
Politique. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un angélisme primaire.
Vous voulez dire que ce n'est pas un mouvement spontané? Non.
Oui et non. C'est-à-dire qu'en tout cas, le lit était fait pour ce mouvement spontané. S'il n'y avait pas eu le lit, le mouvement, il serait éteint, comme ça arrive très souvent.
C'est aussi un moment où on parle d'une danse d'auteur.
Oui. Mmh.
On parle, et c'est un petit peu un terme un peu nouveau. On vous qualifie, vous et les autres, d'auteur chorégraphique. Et c'est une chose d'ailleurs que certains revendiquent, hein, Dominique Baguet le revendiquait.
Oui.
Tout à fait. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Qu'est-ce que vous mettez?
Alors, je crois que vraiment à l'époque, c'était vrai. Enfin, ça l'est toujours, à mon avis. Puis quand on pense à la danse américaine, on voit bien qu'il y a quand même un courant où finalement les gens, on reconnaît vraiment la danse américaine ne serait-ce que, bon, il y a Merce Cunningham, le postmodernisme, etc. Pour ce qui est de la danse contemporaine française, on voit qu'il y a un truc qu'on appelait à l'époque la nouvelle danse française, en vérité. Et on voit que chacun, en fait, est différent. Mais vraiment. C'est-à-dire que sous le couvert et sous l'appellation nouvelle danse française, on a des tas de personnalités. Mais non pas seulement les personnalités dans la vie. C'est-à-dire qu'on voit sur scène la personnalité extrêmement définie du chorégraphe qui... Et là, on peut parler, je crois, à ce moment-là, de danse d'auteur, en fait.
C'est-à-dire que ça veut dire... Il y aurait des chefs de file, mais pas des chefs des hommes de courant. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez travaillé avec Dominique Baguet. Quand on voit vos premières pièces, on peut découvrir d'où ça vient, mais on voit bien que c'est une écriture propre.
Bien sûr. Je crois que là, il s'agit, j'aime bien l'image des parfums. Vous savez, quand on fréquente quelqu'un et qu'on touche quelqu'un, qu'on est en corps à corps avec quelqu'un, on peut partir avec un peu une part de son odeur, mais l'odeur s'estompe très vite et l'odeur naturelle de la personne revient, en fait. Et effectivement, chaque fois qu'on voit des chorégraphes issus, c'était le cas avec Chopinot et Philippe Découfflé aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de chorégraphes qui ont émergé aussi après avoir travaillé avec d'autres. Et au début, on sent des choses. Et puis après, chacun développe sa personnalité et son écriture. Ouais.
Le parfum après le jocage, c'est lequel à cette époque-là? Vous commencez à travailler sur vous.
Je dirais qu'à l'époque, il y avait une petite arrière, un fond de parfum de Baguet. Oui, c'est vrai. Non seulement je l'admets, mais je le revendique. Et puis évidemment, très vite, au bout de 2 ou 3 ans, aussi à rechercher, à faire ma propre démarche de création. Évidemment, ce parfum s'estompe et c'est une nouvelle fragrance qui apparaît.
Les premiers essais chorégraphiques, vos essais chorégraphiques, c'est avec 2 danseurs, 3 danseurs, c'est sur vous, c'est face au miroir?
Oui, c'est moi avec 2 danseuses, puis 3, puis un groupe de 5, et puis voilà. Ouais. Et c'est chercher sur son corps. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est resté, c'est-à-dire... J'aime bien citer cette phrase de René Char, de l'artisanat furieux. C'est-à-dire que la danse, c'est quelque chose qui doit être travaillé au quotidien. C'est vraiment un truc, faut vraiment aller au charbon presque. Et donc, le fait de chercher dans son corps le mouvement, c'est pour moi très important. Et même encore aujourd'hui, j'arrive pas à indiquer, si vous voulez, à indiquer le mouvement. Je peux pas, j'ai besoin de le faire. Mais d'ailleurs, ça répond à une véritable question de conception de la danse. Parce que si je compare par exemple le travail de Merce Cunningham à celui de Alvin Nicolaïs, on voit que ces deux tendances très très divergentes, bien qu'elles soient dans le même courant de la danse américaine. Chez Nicolaïs, on a l'impression que les gens montrent quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en jeu des corps qui est dans une sorte de démonstration du corps rayonnant, enfin rayonnant quelque chose, alors que chez Cunningham, ce qui est assez frappant, c'est que on voit des gens faire des choses. Ils ne montrent pas quelque chose, ils font. Et ce qui est absolument fascinant, c'est ça, c'est cette sensation de voir quelque chose se faire et de voir le danseur faire quelque chose. D'ailleurs, je l'ai remarqué, surtout quand j'ai travaillé avec Viola Farber au CNDC, au bout d'un moment, dans les cours techniques de Cunningham, qu'on retrouvait aussi chez Viola Farber, qui est issue de la mouvance de Merce Cunningham, la préoccupation, c'est pas tellement d'être gracieux, beau, parfait dans le mouvement. C'est juste d'arriver à le faire. Et donc, on est vraiment préoccupé par ça. C'est-à-dire qu'on est pris dans une sorte d'artisanat furieux où on se dit, il faut que je le fasse. Et il faut que je réussisse à enchaîner telle figure à telle figure, etc. Et donc, déjà ça, c'est déjà, à proprement dit, une esthétique, finalement. C'est-à-dire une non-esthétique, mais en même temps une esthétique. Alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais...
Parce qu'on parlait notamment du début, de comment on commence à penser sa danse dans le studio. Vous me parliez de plusieurs
danses. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai du mal, même aujourd'hui encore, à indiquer le mouvement. Parce qu'indiquer le mouvement, ça serait le montrer. Et le montrer, ça serait ne pas le faire. Et ne pas le faire, ça serait lui enlever une dimension, en fait. Et donc je suis très attaché à... Quand je transmets un mouvement, à être dans la sensation du mouvement que je fais, plus qu'à montrer la forme que je veux obtenir, en fait.
On va, parce qu'évidemment, quand on parle de danse, on a toujours envie de regarder à un moment des images. On va regarder un court extrait. Les extraits seront à chaque fois un petit peu courts, malheureusement, mais on est un peu obligé. Et donc, on va regarder un court extrait d'un court-métrage qui est un petit peu particulier, hein, qui est une pièce ancienne. Voilà, je vous laisse regarder les images. Et peut-être qu'Angelin voudra dire après quelques mots, puisqu'il est concerné au premier titre.
Je vois rien.
La réalité est une vision.
Voilà, un court-métrage qui s'appelle... Un film de Cyril Collard qui s'appelle Les Raboteurs.
Les Raboteurs, oui.
Voilà. C'est une commande, hein, c'est une commande de la 7 à l'époque, il n'y avait pas encore Arte. Et donc on a voulu montrer cette image, qui est plutôt une image rare, on la connaît peut-être moins que des captations de films d'aujourd'hui. Peut-être tout simplement pour revenir à cette idée du travail en solitaire, du travail en studio. Comment naît une idée? Je sais que vous travaillez vraiment dans le studio, c'est là que sur le corps des danseurs, vous allez avancer. Par contre, il y a peut-être un moment qui est plus personnel, où l'idée va naître, où l'idée va germer, où quelque chose va vous donner envie, va vous donner une piste. On a parlé tout à l'heure de livres, ça peut être une musique, ça peut être un ouvrage. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Angelin avant d'entrer en studio pour créer?
D'abord, j'ai besoin de J'ai besoin d'une gestation un peu longue. C'est-à-dire que si je prends par exemple le dernier exemple sur les mille et une nuits, ça fait 2 ans que je m'intéresse aux mille et une nuits, que je lis bien sûr les mille et une nuits, je l'ai pratiquement lu en entier. J'ai lu des tas de livres de réflexion, des essais, des travaux de recherche sur les mille et une nuits. Je suis allé voir une somme d'expositions assez nombreuses. J'ai vu des films, etc. Donc j'ai besoin de me nourrir énormément avant d'avoir ce moment de 3-4 mois de répétition avec les danseurs. En revanche, une fois que je suis dans le studio, je réfléchis beaucoup moins, en fait. C'est-à-dire que j'oublie tout ce que j'ai emmagasiné, j'essaye de l'oublier. Enfin, j'essaye même pas, j'y pense pas. À partir de ce moment-là, je suis préoccupé par des choses extrêmement triviales, c'est-à-dire l'énergie, les corps, l'espace, le mouvement, le poids, la vitesse, enfin des choses presque de l'ordre de la biologie musculaire ou je sais pas, et ou bien travailler sur la résistance de l'espace, sur voilà des choses qui sont pour moi vraiment la composition, c'est-à-dire travailler sur la matière des corps et du mouvement et d'élaborer véritablement une écriture et une composition, en fait. Mais j'essaye d'abord jamais d'illustrer tout ce que j'ai vu parce que ce serait ridicule. Et puis surtout, c'est que je suis emporté par le processus. Et j'aime, en fait, c'est ce que je préfère le plus, je crois. Bon, je pense souvent à Picasso qui dit « Si je sais quel tableau je vais peindre, alors pourquoi le peindre ?» Eh bien, je dirais que si je sais quel ballet je vais faire, je vois pas l'intérêt de le faire vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de me perdre. C'est-à-dire, c'est d'être en route vers quelque chose dont je suis en quête, mais que je ne sais pas très bien définir. Et surtout, que ce soit le processus lui-même qui m'amène à l'endroit où je vais aboutir finalement. Et je pense souvent à cette métaphore du créateur qui part en mer. En fait, c'est comme un nageur qui quitte la plage et qui va nager vers le large. Et le large étant l'invention, l'imagination, la découverte, et la plage étant les conventions, les clichés, enfin toutes les idées reçues, etc. Donc le créateur qui se respecte, il essaye d'aller au-delà, il essaye d'aller plus loin, il essaye de découvrir des choses. Malheureusement, quand on nage en pleine mer, parfois on tourne en rond, et des fois on peut être à 20 mètres de la plage sans même le savoir. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ça, c'est cette sensation d'être totalement en perdition dans quelque chose et de ne plus très bien savoir ce que je fais et de le découvrir a posteriori, après. C'est-à-dire de comprendre où cette mécanique et ce processus, plutôt même, je dirais, biologique de la création, vous a emmené, en fait.
Mais l'homme en pleine mer, qui doit quand même conduire le bateau et les danseurs sur le bateau, comment il cache son jeu, il dit tout va bien aux danseurs, parce qu'il y a ces moments où j'imagine.
Oui, moi j'évite de leur dire que je suis perdu. Hein. De toute façon, je crois qu'ils savent à peu près à quoi s'en tenir. Mais disons que je crois que c'est une responsabilité pour moi de ne pas. Moi, j'essaye de créer un climat de. Un climat de travail, de convivialité pour faire le meilleur travail possible. Donc j'essaye de pas amener toute mon angoisse, qui parfois est très profonde, mais souvent nocturne. Et le matin, j'essaye de repartir sur des idées plus claires, oui.
C'est un livre d'entretien et vous dites une chose que je trouve assez belle. Vous parlez du travail avec les danseurs en studio et vous dites à ce moment-là, je suis dans la matière, la glace des choses.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ce que je vous dis, c'est j'ai appris une chose très au Japon. J'ai travaillé avec des maîtres de no parce que je voulais apprendre le théâtre no. Vaste ambition quand on sait que un acteur de no passe une vie entière à apprendre un ou deux rôles parfois. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, c'est comment ces acteurs de no arrivent à donner justement une épaisseur à l'air, en fait, à une résistance à l'air. Et du coup, je me suis rendu compte que peut-être que la danse, c'est pas seulement c'est pas seulement le mouvement des corps, en fait, et surtout la chorégraphie, c'est pas seulement vraiment faire bouger des corps comme ça, c'est faire exister l'espace qu'il y a entre les danseurs et qui n'arrête pas de changer lui aussi. Donc il y a une chorégraphie en creux, une sorte de oui, il y a quelque chose de concave ou convexe, je sais plus, qui danse tout le temps et qui est l'espace. Et cet espace, il peut, par le truchement de la qualité du mouvement des danseurs, il peut donner l'impression d'être extrêmement épais et rugueux, ou bien extrêmement fluide et rapide. Et tout ça, c'est une question de qualité du mouvement et de travail d'écriture des corps, en fait. Et au bout d'un moment, je crois que c'est ces choses-là qui me passionnent. Et c'est des choses que je développe beaucoup plus, d'une façon avec beaucoup plus d'acuité, dans des travaux comme Empty Moves ou bien sur les pièces que j'ai faites sur la musique de Stockhausen, par exemple. Qui sont des sortes de, pour moi, de véritables laboratoires de mise en chantier de concepts, en fait. Je pense souvent à cette comparaison de, c'est un peu comme avec la science, quand on a la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on a des scientifiques qui travaillent sur des concepts, des idées, des chiffres, etc. Et puis à un moment, ces choses-là deviennent des choses qui sont utiles à l'homme, en fait, des médicaments, de la technologie, etc. Mais en fait, ça ne se ferait pas s'il n'y avait pas en amont des gens qui travaillent sur des concepts complètement déconnectés de la réalité utile des êtres humains. Et je trouve que dans la danse, moi, j'ai ce même besoin, en tout cas, de travailler dans un moment, enfin plusieurs fois, régulièrement, ou en alternance, en tout cas, dans une sorte de recherche plus fondamentale du mouvement, de la matière, de questionnement sur le poids, l'énergie, la vitesse, enfin des choses très très presque cosmologiques, hein. Et pour après, pour que ces choses-là après puissent servir aussi sur sur Roméo et Juliette ou Blanche-Neige ou L'Émile et une nuit, par exemple. C'est-à-dire que les choses se nourrissent réellement. Et je crois que le pire, pour moi, ça serait de, entre guillemets, choisir mon camp. C'est-à-dire, alors, t'es un chorégraphe de la narration ou t'es un chorégraphe de l'abstraction? Et ça, je peux pas, j'y arrive pas du tout.
Vous parliez tout à l'heure de l'accumulation avant de commencer une pièce. Est-ce qu'une fois que la pièce est, on ne va pas dire après la création, mais est-ce qu'après ce temps-là, vous avez besoin de vous débarrasser de cette pièce pour passer à autre chose? Ou est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que vous êtes, est-ce que vous laissez cette pièce habiter et elle va être vécue et elle va être transformée par votre compagnie? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit, qui est attentif, qui corrige tout le temps?
Je suis attentif et je corrige encore pendant un certain temps après la première, et puis après je laisse tranquille, en fait. Et aussi parce que je fais tellement confiance à la notation qui m'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, et aux gens qui travaillent avec moi, qui sont des collaborateurs qui sont extrêmement à l'écoute de mes préoccupations et qui sont capables tout à fait de transmettre, et surtout les danseurs qui sont extrêmement proches, puisque moi j'ai un grand amour pour l'idée de la troupe, en fait, du groupe. Et c'est-à-dire que je fais tout pour que les danseurs se sentent le mieux possible. D'abord qu'ils aient un vrai métier, enfin qu'ils aient un métier, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent avec ce qu'ils font. Et depuis le début, j'ai toujours voulu que les danseurs soient salariés, qu'ils puissent s'engager pleinement dans le processus de travail. Et donc j'ai cette chance de pouvoir le faire, c'est formidable, j'en suis vraiment heureux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de la troupe est très importante pour moi aussi, et que les gens m'accompagnent pendant des années, c'est un vrai bonheur pour moi, parce qu'il y a une complicité, il y a dans le travail des choses qui sont indicibles, mais qui sont là, qui existent au quotidien. Et alors, donc, pour finir de répondre à la question, après, c'est eux qui sont en charge de danser le ballet, et je leur fais vraiment totalement confiance après.
Oui, parce que votre compagnie a cette particularité d'avoir un répertoire. Alors, vous ne dansez pas toutes les pièces de votre répertoire, hein, vous en avez plus d'une quarantaine, mais il y a des pièces anciennes qu'on peut voir encore ou qui ont un certain nombre d'années. On peut voir voilà, Le Sacre du Printemps que vous avez créé il y a pas mal de temps, enfin quelques années, Nuit qui vient tout juste d'être créée. Donc ça, c'est vraiment un fonctionnement, c'est un fonctionnement voulu.
Oui, alors je dirais qu'il y a plein de raisons à ça. D'abord, j'estime que ayant une part du budget de la compagnie qui est, enfin la moitié du budget de la compagnie, c'est des subventions. Donc vis-à-vis de ça, je me sens une sorte de responsabilité de pas balancer tout comme ça à la mer en me disant oui, bon, ça j'ai fait, j'en veux plus, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une responsabilité du répertoire que je me suis donné en tout cas de à tenir, c'est-à-dire voilà, j'ai créé des choses avec voilà, et donc je voudrais qu'elle continue à être donnée. Et donc il y a aussi, avec cette idée de l'écriture, c'est quelque chose qui est très dynamique en fait, parce qu'on peut facilement réactiver des pièces du répertoire tout en respectant, grâce à la notation, la venue de nouveaux interprètes. C'est ça qui est le plus passionnant, en vérité. Mais là, il faudrait en parler pendant des heures pour que...
Vous nous expliquez juste, la notation, ça consiste en quoi ? Parce que c'est vrai que souvent, on nous pose la question, on dit, mais qu'est-ce qu'on note exactement ?
Il y a
différents systèmes de notation.
Oui, hein. Alors la notation Benesch que nous utilisons... c'est un système de notation qui s'écrit sur une portée de 5 lignes, comme la musique, qui se lit dans le même sens que la musique. Donc l'avantage, c'est qu'on peut mettre en regard une partition musicale et une partition de mouvement chorégraphique. Et puis elle a ce côté, cette notation de Benesch, c'est qu'elle ne prétend même pas noter la danse, elle prétend noter le mouvement humain. C'est-à-dire que vous pouvez noter la manière dont quelqu'un se brosse les dents avec ses tics. Je sais pas s'il y en a qui se brossent avec le poignet levé ou... Voilà. Donc il y a quelque chose de désaffecté, si vous voulez, et qui me plaît beaucoup. Parce que justement, ça désaffecte le mouvement et ça laisse la place à l'interprète. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que la notation donne presque Elle donne quelque chose à habiter, en fait, au danseur. Elle lui dit, voilà la forme qu'il faut habiter. Mais en fait, c'est une forme totalement épurée, simple. C'est des éléments de presque de mécanique corporelle, mais extrêmement précise, et qui évite que... Imaginez, par exemple, un musicien qui serait un jeune pianiste qui voudrait jouer un aria de Bach... Et qui prendrait le disque de Glenn Gould, qui l'apprendrait d'après le disque, ça serait totalement aberrant. C'est-à-dire que le jeune pianiste serait en droit de demander, mais la suspension là qui arrive, c'est Glenn Gould ou c'est Bach qui la voulait, etc. Et le toucher, c'est... Voilà. Donc, en revenant à la partition, en fait, on donne un outil au danseur qui lui laisse finalement une sorte de... c'est-à-dire ça laisse son imaginaire en éveil, alors que dès qu'il fixe un autre danseur et qu'on lui dit, tu vois le gars là qui est là, voilà, à droite, c'est lui que tu dois suivre, tu dois faire comme lui, donc automatiquement il y a un phénomène de copie,
de
en fait, de mimétisme, et qui à mon avis est totalement antinomique d'un phénomène de création artistique et d'interprétation. Je considère que les œuvres d'art, enfin notamment la musique, ça, c'est pourquoi aujourd'hui on joue. Enfin, aujourd'hui on joue pas Bach de la même manière qu'à l'époque de Bach. Et tout ça, c'est une sorte de dialogue entre les générations d'interprètes qui ont chacun repositionné leur point de vue sur la partition, etc. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque actuellement encore un peu à la danse. C'est-à-dire de pouvoir... mais ça commence, puisqu'on commence à avoir des pièces de Pina Bausch à l'opéra qui sont dansées par d'autres interprètes. Et donc, ces strates qui s'accumulent, qui s'entassent, finalement, évidemment, dans une porosité, finissent par se nourrir et créent finalement la force de l'œuvre. Parce qu'une œuvre est forte quand elle est jouée, et rejouée, et nourrie, et sans arrêt. C'est vraiment comme un être qu'on finit par faire grandir par la nourriture des interprètes, en fait.
C'est beau. On parlait tout à l'heure de la narration, de votre non-choix entre l'abstraction et la narration. On va regarder tout de suite un extrait d'un ballet, Roméo-Juliette. Donc, un ballet narratif, hein, évidemment. Et puis après, on va un petit peu parler de votre goût pour les mythes, pour les contes. On en a vu un il y a très peu de temps. Et là, on regarde un extrait de Roméo et Juliette, ballet créé au départ pour le ballet de Lyon, le ballet de l'Opéra de Lyon, et qui est maintenant répertoire de votre compagnie. Roméo et Juliette, c'est une commande à la base, je pense, du ballet de l'Opéra.
Oui, tout à fait.
Et c'était sur ce thème ou c'était votre choix de...
Non, on m'a dit Roméo et Juliette, Prokofiev, voilà.
Quel est pour vous l'enjeu d'un... Vous n'êtes pas le seul chorégraphe contemporain à avoir travaillé, à avoir proposé des relectures, par exemple, de ballets connus, notamment du répertoire. Hein. Maggie Marin le fera avec notamment Cendrillon et Coppelia. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter? C'est un défi. C'est aussi travailler avec du nombre, parce que là, vous êtes, il y a beaucoup de danseurs sur scène.
C'est vrai que au moment où j'ai eu cette commande, on était moins nombreux dans la compagnie. On était 8 ou 9. Donc tout à coup, avoir une compagnie à disposition, c'était à la fois extrêmement impressionnant, mais en même temps, c'était avoir un outil que j'avais pas les moyens d'avoir. Et donc de pouvoir travailler avec le nombre, et puis de s'attaquer à une commande réellement, c'est-à-dire faire quelque chose que, a priori, vous auriez pas forcément fait. Ça me posait beaucoup la question sur historiquement, comment l'art, en fait, a toujours été l'objet de commandes. C'est-à-dire que depuis le début, que ce soit en peinture, musique, dans tous les domaines, de nombreux chefs-d'œuvre ont été faits à partir de commandes. C'est-à-dire que le peintre, a priori, n'avait pas forcément l'idée de faire cette annonciation, mais il fait une annonciation et c'est... Et je crois que c'est extrêmement formateur. Et puis, ça vous amène sur des territoires où, effectivement, vous ne seriez pas forcément allé. Et vous découvrez des choses sur vous-même aussi. Et donc, c'est quelque chose qui m'a suivi. C'est-à-dire qu'après, ce sentiment de répondre à la commande, c'est quelque chose qui m'a toujours séduit. Que ce soit Michel Caserta qui me dit... tu sais, Les Noces, c'est vraiment un ballet magnifique, mais ça serait bien d'en faire une nouvelle version. Quand j'ai écouté Les Noces de Stravinsky, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, en fait. Et c'est toujours cette chose d'aller au-delà de vous-même qui vous permet d'inventer des choses nouvelles, évidemment.
Lorsque vous parlez de la compagnie, du fait de vous retrouver d'un seul coup à la tête, si je puis dire, d'une compagnie, d'un corps de ballet, quand vous travaillez avec le New York City Ballet, avec le ballet de l'Opéra de Paris, c'est la même chose. C'est peut-être de disposer d'un surplus de virtuosité, de pouvoir, par exemple, travailler sur la pointe, sur la vitesse.
Oui, en fait, c'est plutôt une autre virtuosité. Quand j'ai travaillé avec le New York City Ballet, je me suis rendu compte très rapidement, en observant les cours, les répétitions, qu'il y avait vraiment une tradition de Broadway, en fait. On voit bien que le tap dance, c'est très très présent dans les jambes des danseurs du New York City Ballet. Mais à contrario, par exemple, le ballet de l'Opéra de Paris est extrêmement différent. Et je dirais qu'il y a plus de différence parfois entre deux compagnies de danse classique qu'entre ma compagnie et une compagnie contemporaine, par exemple, une autre compagnie contemporaine. Donc je crois que chaque compagnie a sa culture physique, hein, c'est-à-dire avec des traditions, des habitudes, et puis il y a des choses non dites et qui circulent à travers les danseurs. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'idée de la troupe, c'est-à-dire que chaque fois qu'un nouveau danseur entre dans la compagnie, en fait, il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui demande à circuler entre les danseurs et qui est pas forcément verbalisé, en fait. Et c'est ça qui crée une troupe. C'est toutes ces connexions mystérieuses, en fait, qui produit ça. Et on le retrouve aussi, faut pas croire, dans des compagnies classiques, au New York City Ballet, au Bolshoi, etc. Et du coup, ce qu'on pressent quand on arrive et qu'on est un chorégraphe qui vient de l'extérieur, moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette compagnie. Et à partir de là, essayer de faire le meilleur ballet possible avec ces gens-là. Et c'est pour ça que je crois que souvent, les pièces que je fais, elles ressemblent aux gens avec lesquels je les ai créées. Après, elles peuvent être interprétées différemment plus tard, bien sûr. Mais elles sont le portrait des gens, et au moment T, où je l'ai fait, de ce qui s'est passé avec ces gens-là, en fait.
Vous parliez tout à l'heure de votre compagnie, des nouveaux danseurs qui entrent. Il y a des danseurs qui partent, des danseurs qui reviennent, des danseurs qui viennent. Qu'est-ce que vous cherchez chez un danseur, chez une danseuse? Vous avez un profil type? Vous avez un type de danseur près de jocage qui vous conviendra, que vous allez pouvoir... Ou est-ce qu'au contraire, et je ne parle pas simplement d'un type physique, d'une...
L'autre jour, je pensais à ça parce que demain, j'ai une audition qui commence. Et je me disais, finalement, c'est drôle parce que je trouve que les compagnies, c'est... Donc les troupes, hein, je parle pas des... Oui, je parle des troupes, en fait. Je trouve que c'est comme des bouquets de fleurs, en fait. Il y a des compagnies, c'est des gros, un gros bouquet de tulipes. Alors, c'est que des tulipes. Elles sont toutes pareilles et c'est formidable. C'est très beau, on met ça dans un vase et c'est merveilleux. Et d'autres, c'est un bouquet de roses, etc. Et en fait, je me suis dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est un bouquet extrêmement sauvage. Donc, je veux des tulipes, mais je veux aussi des bleuets, je veux des iris, je veux des chardons. Et donc, finalement, ce que je cherche quand je cherche un danseur, d'abord, je cherche quand même quelqu'un qui est très... en fait, la virtuosité m'intéresse. C'est curieux, hein, mais c'est comme ça.
Et non, mais des fois, soyez pas désolé.
Non, mais des fois, on n'ose pas le dire parce que des fois, c'est presque ringard aujourd'hui. Il faut pas être virtuose. Alors, mais moi, j'adore ça. Donc, tant pis, c'est fait. D'abord, je cherche mais pas des virtuoses de danse classique ou même moderne. Je veux des gens qui ont une histoire avec leur corps, qui leur permettent de faire des choses complexes. Et donc, je suis plutôt dans un maximalisme qu'un minimalisme. Donc je vais vers ça. Donc, je cherche des gens qui sont vers ça. Et après, à partir de là, une fois qu'à la fin de l'audition, je me retrouve souvent avec un groupe d'une 12-15 personnes. Et là, à partir de là, j'essaye vraiment de voir surgir des personnalités, des singularités, en fait, pour pouvoir justement composer cette espèce de tribus vivantes qui composent une troupe pour moi. Enfin.
Une tribu qui a aussi plusieurs nationalités. C'est peut-être la grande différence avec vos débuts dans les années 80. Il y avait des Américains en France, mais on voyageait beaucoup moins. On était presque franco-français. Dans votre compagnie, on a des danseurs qui peuvent venir d'Asie, des danseurs qui peuvent venir d'Afrique. Vous parliez de bouquet. Là, le bouquet, il est encore, il a une autre...
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nationalités dans la compagnie, mais c'est pas un choix. Hein. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye pas de faire United Color of Benetton hein, dans la compagnie. C'est juste que, en fait, il se trouve que quand je fais les auditions, je suis intéressé par telle ou telle personnalité. Il se trouve que c'est un Espagnol ou bien c'est un Japonais ou un Américain ou voilà. Mais je cherche pas ça en fait. C'est juste que c'est juste ouvert, donc voilà.
Et vous savez à quel moment vous savez que c'est le danseur dont vous aviez...
Non, parce que c'est très curieux. Si on parle vraiment des auditions, c'est extrêmement étrange parce que souvent, ça dure 2-3 jours. Et c'est très fluctuant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'avèrent très, très brillants le premier jour. Ils sont là. Et puis, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui change. Et puis, il y a d'autres gens qui sont un peu plus en demi-teinte. Et puis pendant tout le temps de l'audition, qui arrive à rising, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui émerge, qui rayonne au fur et à mesure. Et parfois, c'est pas les mêmes qui sont donnés gagnants au départ qui finissent par. Et puis voilà, je crois que il y a des vitesses chez les gens, il y a des temps, il y a des biorhythmes qui sont extrêmement différents. Il y a des gens qui sont là au quart de tour et puis qui capotent au bout d'un moment. Et puis, il y en a d'autres qui sont lents, et puis, mais profonds et qui finissent par... Puis, il y a ceux qui vont vite, qui vont profond et qui vont loin aussi. Hein. Donc, non, mais ce qui est bien, c'est que tout est possible, en fait.
Vous parliez de tribus, de troupes, de compagnies. Vous aimez les collaborations extérieures. Vous aimez un petit peu agrandir la troupe. On a parlé tout à l'heure d'auteurs, hein, de Pascal Quignard. Vous avez travaillé avec Aki Kuroda, Fabrice Hibert, Claude Lévesque, des plasticiens, mais aussi des musiciens, des compositeurs. Qu'est-ce Que vous cherchez justement chez ces, alors, en fait, d'abord, ces artistes, parce que c'est aussi des artistes avec des univers très forts. C'est...
Oui, en préambule, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, une des grandes figures, presque un totem pour moi, c'est les ballets russes, en fait. Parce que pour moi, les ballets russes, c'est vraiment la première compagnie de danse contemporaine de l'histoire. C'est début du XXe siècle. Ils font Nos, L'après-midi d'un faune, Le sacre du printemps. Et comme par hasard, on a un type qui s'appelle Diaghilev qui va chercher un inconnu qui s'appelle Pablo Picasso, un compositeur qui s'appelle Igor Stravinsky, etc., etc. Des gens qui sont des couturiers, enfin voilà. Donc il y a une tradition, je dirais, dans des ballets russes qui est de mettre ensemble et de mettre autour de la danse des grands créateurs d'autres domaines. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, ça, en fait. Et depuis que j'ai convoqué Enki Bilal totalement sur un coup de bluff, parce que j'étais un admirateur de ses bandes dessinées, et quand il y a eu la commande de Roméo et Juliette, je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit voilà, je fais un Roméo et Juliette.
Sans le connaître, voilà.
Je l'ai envoyé à son éditeur, parce que je n'avais pas son adresse, qui lui a communiqué. Il m'a rappelé la semaine d'après. Il m'a dit, voyons-nous, je veux qu'on en parle. Donc je lui ai raconté que je voulais faire un Roméo et Juliette qui se passait dans une sorte de nomenclatura des pays de l'Est, où en fait le problème, c'est pas les deux familles, mais c'est juste une différence de clan et sociale aussi. Donc je voulais mettre une dimension plus politique. Donc il était assez séduit par ce projet. Et puis on a travaillé ensemble et c'était formidable. Depuis, j'ai cette mauvaise habitude de me dire, quand il y a quelqu'un qui fait des choses qui me passionnent, le mieux c'est de les appeler, enfin, ou de leur écrire et de leur demander de faire. Et je le fais depuis des années. Et c'est à chaque fois pour moi un plaisir de collaborer avec des gens que, a priori, au départ, j'admire, en fait.
Oui, c'est un exercice d'admiration qui devient un exercice de participation.
Voilà, et puis je dirais même qu'au-delà de ça, en fait, c'est un exercice de sustentation, en vérité. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est que je ne suis plus le même avant et après. Avant d'avoir rencontré les musiciens de R, j'étais différent. Et maintenant, voilà. Et c'est pareil avec Claude Lévesque, avec Fabrice Hibert, avec Stockhausen aussi, qui a été pour moi une rencontre, mais d'une puissance incroyable. Travailler avec lui, auprès de lui, ça a été extrêmement enrichissant. C'est une expérience unique.
On va regarder des images, ça tombe bien. Oui. Des images, d'abord des images de création autour de Eldorado, où on vous voit, donc on va vraiment comprendre ce que vous dites quand vous mettez vraiment du vôtre, hein, puisque vous montrez la danse. Et on verra après un deuxième court extrait d'Eldorado. Donc là, c'est le spectacle en scène. Musique de Stockhausen. Et après, on parlera de cette rencontre, parce que je sais que vous y tenez et que c'est une rencontre importante. Donc compositeur... voilà, éminent, pas forcément le compositeur le plus évident pour la danse, et le résultat est assez passionnant. On regarde des images, d'abord un extrait de création d'Eldorado et après un court extrait d'Eldorado. Voilà, c'était le final d'Eldorado. C'est vous qui allez vers Stockhausen, qui voulait. Au début, c'est sur hélicoptère. C'est une autre partition, une autre création.
Oui. Au début, j'ai entendu hélicoptère et puis j'ai eu envie de travailler dessus. Et je lui avais écrit une lettre où je lui demandais l'autorisation d'utiliser sa musique. Il m'avait répondu très gentiment qu'il était très touché, etc. Bon. C'était un homme extrêmement poli et délicieux qui m'enjoignait de continuer cette démarche. Et donc, voilà, je l'ai fait. Et puis, 2 ans après, il m'a écrit pour me demander de lui rendre visite à Kürten, dans son atelier près de Cologne. Et j'y suis allé. Et là, il m'a reçu dans son studio tout blanc avec plein de haut-parleurs et des machines électroniques. Et il m'a fait écouter un truc absolument époustouflant qui s'appelle Sonntag Abschied et qui est devenu Eldorado, en fait. Et il voulait absolument... Voilà, il m'a dit, c'est mon dernier opus. J'aimerais bien que vous fassiez quelque chose dessus. Donc c'est une offre qui se refuse pas, hein, comme voilà. Et donc voilà, j'ai commencé. Alors ce qui est curieux, c'est que au départ, j'avais d'autres projets entre-temps, et je lui avais dit que j'avais très envie de le faire, mais que j'avais d'autres projets à faire. Et quand je suis rentré à Aix, je l'ai réécouté et j'ai dit à tous mes collaborateurs qu'on allait repousser les choses que je voulais faire et on ferait ça en priorité. Et on l'a fait. Et donc, on a travaillé ensemble. Il est venu à la première. C'était très, très émouvant de le voir là. Et 3 mois après, il est mort, en fait. Et je me suis dit rétrospectivement que si j'avais différé, enfin, si je m'étais tenu à mon programme, en fait, on n'aurait pas pu vraiment collaborer, en fait. Donc, ça, c'était très, très troublant, en fait.
Collaborer avec des artistes vivants, c'est aussi un échange. Là, vous parliez de lettres, hein, ce que vos petits mots vous envoyez pour dire j'ai envie de travailler avec vous. Mais est-ce que c'est un échange permanent ou est-ce que on vous donne quelque chose, on vous donne un livre, vous allez le mettre en scène, vous allez le mettre en danse, on vous donne une musique et ça s'arrête là ou est-ce qu'il y a comme ça des allers-retours entre vous, le chorégraphe et l'artiste que vous invitez dans vos projets?
Ah oui, mais c'est sans arrêt, hein, c'est sans arrêt. C'est vraiment c'est quelque chose qui vous déroute en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la déroute. C'est comment on va me sortir de mon ornière en fait. Je crois que c'est ça qui m'affole le plus, c'est de rentrer dans un processus de création où je saurais exactement ce que je fais, c'est-à-dire faire des choses que je sais faire. Alors ça m'intéresse pas vraiment. Et la collaboration m'oblige à me dérouter, et c'est ça que je recherche en fait.
La musique, vous travaillez avec des partitions plutôt très connues, repérées. Vous travaillez avec un groupe de musiciens comme les musiciens de R, la musique électronique actuelle. Ça correspond à l'auditeur que vous êtes, au mélomane que vous êtes ou...
Oui, enfin, en tout cas, moi, j'écoute des tas de choses très diverses et voilà, j'essaye d'être à l'écoute. Mais j'essaye d'être à l'écoute. C'est drôle parce que je crois que je trouve beaucoup plus d'inspiration dans la peinture, dans la littérature, dans la musique, même au théâtre. Et paradoxalement, la part de la danse, elle est relativement infime en fait. C'est-à-dire que je me nourris beaucoup plus d'autres choses plutôt que de danse, c'est-à-dire d'aller voir. En même temps, j'essaye de voir un maximum de choses en danse aussi, mais on peut pas tout voir. Donc, mais en revanche, oui, la musique m'intéresse énormément, la peinture, la littérature, voilà, comme je disais.
La littérature, ça va prendre différentes formes, parce que ça peut être une commande, l'Anour, Pascal Quignard, une sorte de conte, ou alors avec Laurent Mauvignier, quelque chose de beaucoup plus contemporain. Mauvignier écrivant lui-même après, à partir d'un fait divers. Et pour vous, il ne s'agissait pas, donc la création qui est récente, hein, qui a 2 ans, je crois, ou un an.
Un an.
Qui s'appelle Ce que j'appelle oubli. C'est une création avec un acteur, un comédien et des danseurs, vos danseurs. Pourtant, on est loin de l'illustration du texte. Vous partez comment et vous travaillez comment, peut-être aussi avec Laurent Mauvignier, dans cet exemple très particulier?
J'essaye de... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment la danse peut être un proto-langage, en fait. C'est quelque chose qui est avant les mots, oui. Et, ou quelque chose qui se nicherait entre les mots. Parce que, évidemment, l'illustrer, ça serait totalement suicidaire. Et pourquoi, puisqu'on a les mots, alors pourquoi raconter les images, en fait? Donc, ce que j'essaye, c'est de trouver la relation mystérieuse qu'entretiennent les mots et les mouvements humains, en fait. Et je crois que là, il y a une véritable mine de choses qu'on ne connaît pas encore et qui est cette relation. C'est-à-dire quelque chose qui peut exister physiquement et gestuellement dans les phrases, mais entre les mots, et qui peut faire résonner les mots différemment, en fait. Donc je cherche ça et voilà, c'est un peu complexe parce que le rythme des mots est à sa nature, le mouvement en a une autre, Ça peut se retrouver, mais si ça se retrouve trop, ça marche pas. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment une chose de d'élagage, en fait. C'est-à-dire qu'il faut produire beaucoup de matière, par exemple, et puis essayer avec le texte, et puis voir que là, ça va pas du tout, qu'il faut épurer, affiner, jusqu'à ce qu'on entende à nouveau le texte, souvent. Parce que c'est souvent... Bon, quand j'ai travaillé avec Mauvigné, c'était ça. Il y avait... J'échafaudais à partir d'un moment du texte. J'échafaudais une construction chorégraphique, un travail. Et quand je faisais vivre la matière chorégraphique avec le texte perdait totalement. Enfin, je ne l'entendais plus. Ou bien c'était l'inverse. C'est-à-dire que le texte, tout à coup... annihilait totalement la danse. Et donc ce qui était très très en fait complexe, c'était de faire que en regardant on entende toujours le texte, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on en ait une conscience accrue et même encore plus accrue, et c'est ça que j'essayais de faire, et voilà. Mais
on va regarder un court extrait. Mettre en scène, c'est une chose que vous n'avez pas encore tentée.
Mettre en scène, je trouve que c'est tellement naturel pour un chorégraphe que je me pose même pas la question de mettre. C'est-à-dire que mettre en scène, pour moi, ça veut pas dire grand-chose d'autre, parce que de toute façon, je mets en scène tout le temps, en fait, les corps, les mouvements, l'espace, le temps, et c'est quelque chose qui m'est très familier. Ça fait juste 30 ans que je fais ça, donc voilà.
On va regarder un extrait de ce que j'appelle Oubli, mise en scène et chorégraphie d'Angelin Prajokaj.
C'est tout. Il ne sait pas s'il a soif, mais il va là-bas, ça il le sait.
Tu as de l'argent pour payer ça ?
Vous avez eu, il y a peu de temps, l'envie de remonter sur scène, de dire un texte, de l'interpréter, de le danser. Ce texte, c'est Le Funambule de Jean Genet. Vous pouvez nous parler de cette expérience qui est une chose peut-être à part dans votre parcours, d'abord parce que c'est vous et seulement vous sur scène. Il y aura peut-être... Vous l'avez donné, hein, entre-temps, vous l'avez donné à un autre danseur. Mm-hmm. Vous pouvez nous parler de cette expérience? Pourquoi on remonte sur scène?
En fait, je suis remonté sur scène parce que on venait de faire Blanche-Neige et il y avait tellement de tournées que pendant un an et demi, deux ans, j'avais plus de danseurs. En fait, ils étaient tout le temps en tournée, alors j'avais plus personne. Et le seul corps disponible qui me restait, c'était le mien. Alors je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être le moment de faire un travail moi-même, personnel, plus intime, enfin avec mon corps, et de le mettre sur scène. Et puis est ressurgi du passé ce texte de Jean Genet qui s'appelle Le Funambule, et que je lisais quand j'étais étudiant chez Karine Weiner, d'ailleurs, et qui me remettait un peu en selle, parce que pour moi, Le Funambule, c'est comme l'être un jeune poète, en fait, de Rilke, mais qui s'adresserait à quelqu'un du spectacle vivant, hein, du corps, quoi. Donc,
spectaculaire.
Et il arrête, parce que tout le long du texte, il parle de la danse, il dit quand tu danseras sur ton fil, quand tu apparaîtras, ton corps, etc. Donc c'est des sortes d'injonctions pour, comme s'il livrait à travers ce texte les secrets de... pour atteindre le firmament de son art, en fait. Et ce texte me permettait vraiment, dans les moments de doute, de me remettre en selle et de continuer ce travail de danseur qui est exigeant, parfois rude. Et je me suis retrouvé donc tout à coup avec ce texte. Je me suis dit, c'est drôle. Voilà, c'est... Et au début, je voulais le faire avec un comédien et moi danser. Et puis après, j'ai vite compris que c'était un texte de solitude. Et donc je me suis dit, je vais le faire seul. Et je me suis dit aussi que, comme j'avais 52 ans, je pouvais avoir une forme de maturité qui était celle de Jean Genet quand il écrivait ce texte à Abdallah, qui était son amant funambule, qui lui avait 20 ans, en fait. Et moi, avec le souvenir que j'ai de ce qu'avait été... le danseur que j'étais, en fait. Donc j'avais l'impression que je pouvais un peu être les deux. Et donc pendant le funambule, je suis un peu et l'un et l'autre, en fait. Je me parle à moi-même. Et donc finalement, c'est devenu quelque chose de très... quelque chose sur la passion de danser, sur la passion de créer, sur la passion d'être en scène, et sur toutes ces choses extrêmement étranges quand même quand on pense à la vie du monde. Moi, je pense souvent à ça, en fait, bêtement. C'est que parfois, on est le matin à la barre et puis on fait des dégagés, des pliés, des choses extrêmement bizarres avec son corps. Et puis, on peut se dire aussi qu'à ce moment... En fait, il y a des gens qui meurent pour pouvoir danser ou pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre. Et je me dis, c'est quand même vraiment merveilleux de faire ça. Enfin, et donc, le funambule, ça parle aussi un peu de ça, de cet exercice de moine un peu qu'est l'idée d'être un danseur, en fait.
Et c'est aussi l'envie de raconter ce corps qui change. Ce corps qui vieillit, hein.
Oui,
c'est le mot qui convient, mais surtout dans un univers, la danse, où on préfère le corps plutôt oui. Jeune, athlétique. On sait que chez Pina Bausch, on peut danser maintenant à plus de 65 ans. Là, vous montrez autre chose, vous montrez...
Ben oui, mais je crois que le corps, je crois que tous les âges du corps sont d'abord des substances pour le corps qui sont envisageables, je veux dire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire là, mais c'est-à-dire que toute époque du corps, en fait, a sa spécificité, a sa texture, a sa qualité, qu'il faudrait pouvoir se réapproprier, en fait, pour certaines œuvres, certaines thématiques. Donc, la question de mes 52 ans, au moment où je l'ai fait, c'était plutôt même une sorte de... C'est un peu comme les commandes. Hein. Je m'étais commandé à moi-même d'être le personnage. Et je m'étais dit, bon, t'auras un mec de 52 ans à diriger. Voilà. Bon.
Voilà. C'est une prise de risque supplémentaire ou le plaisir était plus fort que...
Oui, alors à la fois, je dirais oui, c'est une vraie prise de risque, mais à la fois, toujours, chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est ridicule, parce que des gens qui prennent des risques dans le monde, il y en a plein, et pour des causes extrêmement importantes, et qui prennent des vrais risques, c'est-à-dire qu'ils peuvent mourir et qu'ils meurent parfois. Donc quand on dit il a pris un risque incroyable, artistique, et tout ça me fait presque rire, mais en même temps, c'est vrai, ça veut dire que tout à coup, quand je suis... le matin devant mon café et que je me dis oh là là il va falloir que je me dis waouh c'est risqué et voilà, mais en même temps c'est rien en fait, c'est juste j'essaye de faire ce que je fais avec le plus d'éthique, de conviction et de foi possible. Donc au bout du compte il y a le sentiment du risque, mais à mon niveau en fait, donc c'est voilà.
On va voir un bref extrait et donc on va voir où se situe le risque et on va voir aussi, on va vous entendre. Le funambule.
Si la précision de tes gestes est parfaite, il se précipitera à la rencontre de ton pied coiffé de cuir. Ce n'est plus toi qui danseras, c'est le fil.
Voilà, comme ça fait déjà presque une heure et demie que nous sommes ensemble, vous avez peut-être des questions à nous poser, enfin surtout à poser à Angelin. Donc on a un petit temps de parole, donc n'hésitez pas si vous avez une question, si vous voulez même qu'on reparle de quelque chose, d'un détail. Voilà, on a beaucoup parlé de la notation, on a parlé de l'esprit de troupe. Peut-être une dernière chose, je crois que vous allez créer à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, pour... vos amis américains du New York City Ballet. C'est une pièce... on est dans la narration, dans l'abstraction. On est dans la musique classique.
Un peu entre les deux.
D'accord.
Je vous en dirai plus quand je les aurai. En fait, je pars fin mai pour 3 jours de casting. En fait, je dois choisir les danseurs avec qui je vais travailler. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est que... Comme je vous disais, j'essaye de trouver la meilleure chose que je vais pouvoir faire avec ces gens-là. Donc là, comme j'ai pas travaillé avec eux depuis 5 ou 6 ans, je les ai pas revus, je suis très curieux de voir comment a évolué la compagnie, qui sont les nouveaux danseurs, qui est encore là, puisqu'à l'époque il y avait Benjamin Millepied. Quand j'ai créé la Stravaganza, il était dans mon équipe, et voilà, par exemple lui est plus là, voilà. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, la vie d'une compagnie, et là je suis curieux de voir qui sera là, voilà.
Bien, on se retrouvera dans quelques semaines pour avoir un récit. Des questions, c'est à vous, merci.
Vous avez parlé du Japon. L'Afrique, est-ce qu'elle vous a apporté quelque chose de spécifique, ou bien est-ce que vous avez apporté quelque chose de spécifique à l'Afrique ?
Moi, je ne sais pas si j'ai apporté grand-chose. Non, moi, j'ai fait plusieurs voyages en Afrique avec la danse, et ma dernière expérience, ça a été que j'ai été président du jury du festival de danse d'Afrique, de la danse contemporaine d'Afrique, et j'avais assisté 2 ans auparavant au même festival, mais là j'étais pas jury, juste en spectateur, et j'avais trouvé à l'époque que la danse était encore la danse contemporaine, je veux dire, elle était pas encore tout à fait assez émergente, quoi. Et quand je suis retourné 2 ans après, en fait, je trouvais que ça avait énormément évolué, et je trouve que ça va très très vite, et aussi que tout à coup j'avais face à moi une vraie danse contemporaine africaine et non pas une danse africaine contemporaine, vous voyez. C'est parce que souvent j'avais perçu un malentendu, même de la part des programmateurs ou des gens de la danse, de dire de la danse africaine contemporaine. C'est-à-dire, c'est comme si on demandait à ces danseurs de faire des projets qui étaient une espèce de danse africaine, mais un peu modernisée. Et ça, je trouvais ça pas bien du tout. Et je trouvais qu'il y avait une véritable question d'appellation. Et je voulais que les gens arrêtent de dire de la danse africaine contemporaine. Je disais, dites de la danse contemporaine africaine. On ne dit pas de la danse française contemporaine, on dit de la danse contemporaine française. Et donc j'étais devant cette même problématique à l'époque de ça. Et donc, juste pour dire que quand j'étais membre du jury, que je voyais ça, tout à coup je me disais, voilà, là c'est vraiment de la danse contemporaine africaine. C'est-à-dire que c'était un regard sur le monde, des questions sur le corps dans les sociétés, etc. Mais à l'aune de leur passé, voilà. Plutôt qu'une adaptation des danses africaines vers une forme de modernité. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est un peu... Si c'est clair, mais... Mais je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, monsieur. Oui, c'est... Non. Non.
Je vous avais vu passer au Ghana. Vous cherchiez moins d'idées qu'un état d'esprit, une espèce de recherche, pas de sacré, mais c'était un peu ça que vous étiez en train de chercher. Vous avez eu un contact avec les Africains. Alors, de leur côté, comment ils vous ont perçu ? Est-ce qu'ils ont retiré quelque chose de l'échange que vous aviez ? C'était un peu ça.
Oui, d'accord. Alors, en fait, c'est pour parler plus prosaïquement de tout ça, en fait, on a aussi noué des liens, en fait, entre le pavillon noir et certaines compagnies d'Afrique, dont le Ghana, le Mali, etc., des relations d'échange, c'est-à-dire qu'on a fait des résidences au pavillon noir avec des programmations de création de ces chorégraphes africains. Et c'est quelque chose qu'on perpétue, en fait, depuis cette époque où on s'était vu, là, quand j'étais au Ghana. Depuis, on a continué cette aventure d'échange, en fait. Ouais.
Vous avez parlé de la créativité que vous entreprenez dans la danse. Je suis là. Est-ce que vous trouvez cette créativité directement dans l'idée que vous trouvez de la chorégraphie, ou est-ce que parfois vous essayez de chercher une qualité dans vos danseurs avec l'improvisation, par exemple? Qu'est-ce que vous jusqu'où va cette créativité?
Elle va effectivement jusque dans un échange avec les danseurs. Parfois, bon, vous avez vu, bon, c'est dommage qu'on ait pas pu, bon, on n'avait pas le temps, mais d'aller plus loin dans le film qu'a fait le film là où je rampe là, d'ailleurs quand j'ai vu le film au début je crois qu'il allait me ridiculiser, Olivier Assayas, mais en fait si on continue à regarder le film on voit que quelque chose finalement finit par naître et s'échafauder, et c'est ça que je trouve très beau dans le film, en fait c'est que il y a quelque chose qui germe depuis rien, en fait, et voilà. Mais donc parfois, c'est moi qui fais ce travail de recherche. Et parfois, j'aime aussi demander aux danseurs d'improviser sur des thématiques qui sont liées à l'axe de la création que j'élabore. Et ensuite, ça permet tout un tas de choses. C'est que ça permet à la fois de mieux comprendre ce qu'on veut, c'est-à-dire à travers le corps des autres. Et puis, ça permet aussi de rafraîchir le langage aussi, parce qu'ils apportent des choses qui sont très intéressantes. Mais à ce titre-là aussi, je crois qu'il y a, toujours des surprises avec l'improvisation. C'est que parfois, c'est aussi des mécanismes inconscients. Et donc, il y a parfois une sorte de restitution de choses qui viennent d'ailleurs. Et il n'y a pas toujours forcément la fraîcheur de... Ce que je veux dire, c'est que l'irruption de quelque chose de singulier, c'est très très compliqué, très rare, quoi. C'est juste ça que je veux dire. Voilà.
Quel genre de peinture vous intéresse? Est-ce que la peinture abstraite vous parle beaucoup, ou est-ce que ce sont plutôt les couleurs?
Oui, alors j'aime bien la peinture figurative parce qu'elle parle des corps aussi. C'est peut-être sûrement ça qui me passionne. Mais j'aime aussi la peinture abstraite parce qu'elle ne parle pas des corps, parce qu'elle a évacué les corps aussi. C'est-à-dire cette question de la disparition du corps dans la peinture m'a beaucoup taraudé à une époque. En fait, dans les années 80-90, j'étais vraiment très 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 perturbé par ça. Mais en même temps, la notion de concept, en fait, je trouvais très très intéressant. Et puis aussi de la forme, c'est-à-dire du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la recherche fondamentale ou bien sur la recherche appliquée, en fait. Dans la peinture abstraite, il y a quelque chose qui est dans une sorte de rigueur de la forme qui engendre évidemment des réflexions et qui provoque parfois l'inspiration dans la danse. Par exemple, juste pour évoquer cette histoire de forme et d'inspiration, sur le spectacle des nuits, qui est évidemment inspiré des Mille et une nuits, j'ai travaillé à partir de tapis persans. Et donc, je suis parti de la géométrie des tapis pour chorégraphier des choses. Donc, c'est-à-dire que l'abstraction et le formalisme de certaines œuvres d'art contemporain, soit minimaliste ou abstrait, peuvent être extrêmement autant créatifs qu'une Pietà ou qu'une scène de bataille, par exemple, où les corps sont extrêmement exaltés. Voilà.
Oui, bonsoir. En fait, ce qui me touche, là, par exemple, c'est l'exemple que vous avez donné au début, quand vous avez vu la photo de Nourieff. Et en fait, je me suis posé la question, justement, c'est qu'un intellectuel plane, mais il ne colle pas à la réalité. Et quelque part, on est justement confronté par un moment à une infirmité sociale, au sens large du terme, qui vient remettre en cause la mythologie. Or, j'aurais aimé savoir si vous pouviez être plus précis, parce qu'à un moment donné, vous aviez utilisé ce terme de mythologie. Là, vous évoquez le tapis persan, mais est-ce que, justement, il y a autre chose qui vous touche ? Mythologie contemporaine, ça peut être le pop art, ou alors des objets, ou alors une pensée, ou...
Oui, enfin, il y a plein de choses qui me passionnent, enfin, au niveau de la mythologie contemporaine. Bon, d'abord, évidemment, il y a des lectures qui sont... à mon avis, quand on est chorégraphe, il y a des lectures qui sont incontournables, comme les lectures de Lévi-Strauss ou d'autres. Hein. Je parle de sociologues ou de... Mais alors, pour parler plus de la mythologie contemporaine, si j'évoque le dernier spectacle que j'ai fait avec le texte de Laurent Mauvigné, on est vraiment dans une réalité sociale, politique, même sociétale, je dirais. C'est-à-dire que là, il est question d'un fait divers... qui devient un texte littéraire très très fort, très puissant, et puis qui devient un spectacle de danse. Donc c'est ma façon, si vous voulez, un peu d'absorber une part du quotidien, une part de... L'autre jour, on me disait, mais pourquoi dans votre danse, il y a de la violence, et pourquoi dans la danse contemporaine, il y a de la violence, alors que la danse, ça devrait être la grâce, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Comment la danse, qui est un art du corps, pourrait... ne pas intégrer une part de la violence du monde qui circule depuis la nuit des temps sur les corps, en fait, qui s'acharne sur les corps. La violence, c'est vraiment sur les corps, la plupart du temps, que ça se joue, en fait. Et donc, comment la danse dont le corps est le principal vecteur pourrait s'abstenir, en tout cas, de prendre cette part de la spécificité du monde, qui est cette violence. Je trouverais ça indécent que dans la danse, il n'y ait pas de violence. Puisque dans la peinture, on a de la violence, c'est incroyable. C'est des étalages de barbarie, de sauvagerie, de strangulation, de meurtre, des champs de bataille. Si on pense à Guernica, enfin, et j'en passe. Comment la danse pourrait, elle... Ne pas prendre une part de tout ça, c'est, je peux pas imaginer.
Oui, c'est moi. Je voulais vous poser aussi une question. Au départ, vous avez beaucoup parlé dans votre processus de création de toutes les influences qui vous ont marqué. Et finalement, je me demandais si vous estimiez avoir été marqué par vos origines familiales, votre Albanie. Et tout ce qui s'est passé pour vous et qui était très intéressant et très court de votre histoire individuelle.
Oui, mais ça a été très important et ça continue à l'être. Mais c'est... En fait, très vite, je n'ai pas voulu faire de mon albanitude une sorte de fonds de commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au début...
Je n'ai plus du tout ressenti l'Albanie dans toute votre narration après.
Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est plus là comme une sorte de sujet. Mais en fait, c'est quelque chose qui nourrit... en soubassement, je dirais, en filigrane, tout ce que je fais. Je crois que je peux pas... je sais plus, l'autre jour, quelqu'un m'a dit « Oui, vous avez dit que vous étiez un homme albanais. » Oui, je crois que d'une certaine manière, je suis un homme albanais, mais qui se soigne, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est des choses qui sont ancestrales, que mes parents m'ont transmises presque de façon inconsciente. Et bon, j'ai quatre sœurs, j'ai vu ce que c'était l'emprise familiale et puis certaines traditions ancestrales liées à la condition des femmes, etc. Donc, tout ça, ça me constitue et ça contribue à ce que j'essaye parfois de faire, à faire dire au corps sur scène, en fait. Même dans les nuits, là, il y a quelque chose sur les femmes qui finit par sortir parce que je trouve que la position des femmes dans ma famille a été terrible et dans certains pays c'est épouvantable et en France il n'y a pas de quoi être vraiment fier non plus, hein, pour être très clair. Et oui, donc voilà, mais ça c'est un exemple, mais c'est vrai aussi sur alors, pour revenir à la question de l'épique, c'est peut-être quelque chose aussi qui vient de là aussi, cette tentation de l'épique. Je sais pas, quand je lis du cas d'arrêt, je j'ai pas l'impression de me lire, mais je sens quelque chose qui est pareil, en fait. Espèce de est-ce que c'est pas albanais ou balkanique, ces choses-là, je sais pas, peut-être. Mais en même temps, je suis extrêmement français. Parce que j'ai une, je sais pas, je suis je suis très habité par la littérature française, par la philosophie, par une forme de... Dans mon écriture chorégraphique, il y a quelque chose d'extrêmement cartésien, presque. Donc c'est une sorte de chose hybride entre des choses qui viennent un peu, je dirais, des ténèbres et puis quelque chose qui vient de la lumière, enfin de la lumière au sens... la France des Lumières, comme on dit. Hein, ouais, voilà, donc... Mais c'est un alliage, quoi. C'est compliqué. Comme le judo et la danse, c'est pareil.
Oui, bonsoir Angelin. Nous nous connaissons depuis très longtemps, à l'époque de Karine. J'ai une petite question à vous poser. Bon, je reprends une métaphore qui est ce bouquet de fleurs, la tulipe, la rose, et votre bouquet de fleurs, qui est un bouquet de fleurs que j'appellerais universel, c'est-à-dire que l'on voit un peu à votre démarrage. C'est-à-dire au moment où vous avez commencé dans une commune à l'Île-de-France, où c'était très cosmopolite, où il y avait véritablement toutes les nationalités. Et aujourd'hui, voilà que vous êtes aussi porteur de toutes les nationalités, puisque vous, en tant que personne immuable, pour répondre un peu à ce que disait la personne précédemment, on peut se transformer à tout moment. Je réponds un peu à ce que j'entendais précédemment, et que aujourd'hui, effectivement, vous êtes sollicité dans le monde entier. Bien sûr, il y a vous qui connaissez cette alchimie, ce choix, ce contenu. Et ma question est la suivante. On connaît bien le fonctionnement de l'Opéra National de Paris, que vous connaissez bien aussi, puisqu'il y a quelques chorégraphies qui figurent dans votre répertoire. Mais dans le cadre de votre compagnie, qui est une compagnie, c'est une entreprise, d'après ce que j'ai compris, rectifiez le tir si j'ai pas bien compris, il y a 26 danseurs, et vous avez ponctuellement aussi d'autres danseurs, selon les chorégraphies que vous montez, simultanément, parallèlement, ou les commandes. Alors, ma question, c'est, quel est en somme aujourd'hui votre souffle personnel qui vous permet effectivement de faire découvrir ce souffle au choix des personnes qui travaillent avec vous de manière à ce qu'elles puissent véritablement avoir cette résonance de votre souffle pour que vous puissiez arriver effectivement à votre création finale qui permet aujourd'hui de nous rendre compte que effectivement vous êtes un des seuls dans le monde à être sollicité partout, le petit balai, vraiment partout. Voilà, c'est ma question. Peut-être qu'il y a-t-il une recette personnelle, mais si vous pouvez m'en laisser deux, trois, je vous écouterai attentivement. Merci. Bon.
Oula, c'est compliqué. Hein, Alors, je ne sais pas quoi dire parce que c'est drôle, mais tout à l'heure, quand vous m'avez dit ce que j'appelle oubli, ça fait même pas un an, puisque c'était en septembre, en fait. Et là, je viens de finir les nuits. Et donc, je me dis, mais oulala, c'est très, très comprimé dans le temps en termes de répétition et de travail. Mais c'est parce que je crois que, d'abord, j'ai vraiment un besoin irrépressible de créer. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai fini quelque chose, je me sens vide. Et il y a quelque chose qui se met en marche tout de suite. Et même pendant que je finis quelque chose, des fois, c'est déjà en marche la suite. Et donc, il y a ça. C'est un besoin. C'est vital. Et puis, je fais extrêmement confiance, en fait. C'est-à-dire que je fais confiance vraiment à tous les gens qui travaillent avec moi, que ce soit les gens qui sont administratifs, qui travaillent avec moi sur la production, sur... la diffusion, la presse, enfin dans tous les domaines, je fais confiance vraiment aux danseurs qui travaillent avec moi. C'est comme je disais tout à l'heure, à un moment je lâche et puis je me dis ils vont le faire très bien, ils vont mieux que, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une telle, dans ma compagnie, à une telle responsabilité. C'est-à-dire quand je dis responsabilité, j'utilise volontairement ce terme, c'est-à-dire parce que dans responsabilité il y a réponse. Être responsable, c'est être capable de répondre, en fait. Et je crois que ce que j'apprécie beaucoup dans les gens qui travaillent avec moi en ce moment, je croise les doigts, j'espère que ça va durer, c'est cette qualité d'être à même de répondre. De répondre quand ils sont sur scène, ils sont là, ils sont prêts à répondre au public et à donner ce qu'ils ont à faire. Et c'est dans tous les domaines pareil, administratifs, techniques. Donc je fais extrêmement confiance aux gens. Et ça me libère parce que je sais qu'ils vont faire le mieux qu'ils peuvent. Et j'ai parfois l'impression que si j'interviens, à la limite, ça va juste casser quelque chose ou voilà. Donc du coup, ça me libère l'esprit pour faire d'autres choses. Et je crois que j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin d'être libéré pour... je me sens un peu comme une ardoise, vous savez, on fait la tirette, là, puis ça s'efface, et du coup, il y a à nouveau une ardoise magique, vide. Donc on peut recommencer quelque chose. Et ça, ce tiret qui me permet d'effacer et de laisser la place à autre chose, c'est tous les gens qui travaillent avec moi et qui nourrissent mon travail et qui, en même temps, par la confiance que je leur donne et parce que je leur fais confiance, parce qu'ils me montrent que je peux avoir confiance en eux, libèrent cette art. Ça veut dire qu'ils font le balayage qui me libère pour faire la suite. Alors, je ne sais pas si c'est un souffle ou quoi, mais en tout cas, pour répondre à votre question, je crois que je suis extrêmement aidé par les autres. Et je suis porté, en fait. Je me sens en ce moment vraiment porté par les autres. Et vous savez, comme quand on se jette de la scène, rock'n'roll, là, et hop, tout le monde vous porte.
Le stage diving.
Voilà, ouais. Stage diving, oui. Là, il faut faire attention qu'il y ait des gens en dessous, parce que des fois, ça s'écarte et c'est dangereux.
Bonjour. Ça marche ? Oui, si. Je suis là. Vous avez parlé de la façon dont vous créez en ayant une espèce de temps pendant lequel vous vous emplissez de différentes choses et puis ensuite vous passez, si j'ai bien compris, aux choses vraiment concrètes avec les danseurs. Et par ailleurs, vous avez aussi parlé de l'importance de la notation pour vous. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, je fais de la musique, je dirais une partition.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et ce que je ne comprends pas bien, c'est comment ça se passe, votre relation avec la partition. Parce que, à ce que je sais, moi, je fais plutôt de la musique. Les compositeurs, ceux dont j'ai entendu parler, utilisent pour créer un instrument qui synthétise un peu tout le reste, par exemple le piano. Et parfois non d'ailleurs, parfois ils sont inspirés et ils écrivent directement sur la partition. Et donc ensuite, après, il y a un passage à l'instrumentation et à la mise en concrétion, si je peux dire. Mais apparemment, vous ne faites pas comme ça. Donc, quelle est votre relation avec la partition ? Voilà.
Ben, en fait, la partition pour la danse, parce que évidemment l'instrument c'est le corps, donc bien sûr je pourrais écrire avec le corps. D'ailleurs, ça serait assez intéressant de faire des partitions géantes où le corps inscrirait vraiment le mouvement. Mais en fait, c'est pas évidemment pas ça du tout. Non, la question c'est d'avoir quelqu'un qui note ce qui se passe dans le studio au moment de la création. Déjà. Mais pas seulement. C'est que tout ce qui est dit est notifié. Ce mouvement, tu le fais avec le bras qui tombe comme une cascade ou je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Et donc, la notatrice qui travaille avec moi, elle note le mouvement du bras et puis elle rajoute même comme une cascade. Elle va mettre... et donc, le mouvement devra être fait comme une cascade. Mais comme des fois, dans la musique, on a ça. Hein, dans les pièces de Satie, par exemple, c'est assez rigolo, même les annotations. Donc, il y a à la fois le mouvement et puis des annotations. Et puis, après, il y a la mise en forme de la partition générale. Ça, c'est quand le ballet est vraiment terminé. Il y a une récupération de toutes les notes qui ont été faites, qui sont mises en partition, mais avec la partition de chaque interprète, parce que évidemment ils font des choses différentes, et voilà, il y en a qui rentrent du fond, un qui se roule par terre pour faire danse contemporaine,
comme dans un sextuor par exemple.
Voilà.
Mais donc c'est quoi a posteriori que la partition.
Donc la partition se construit, c'est-à-dire le matériau de la partition se construit, enfin s'accumule pendant les répétitions, et la partition se fait quand le ballet est terminé, en fait. Et c'est en aucun cas, en tout cas dans le mien, un outil de création. C'est un outil de mémoire, en fait. Comme je dis souvent, je pense que la danse, ça est un art, non pas de l'éphémère, mais c'est un art amnésique qui a besoin d'une mémoire, qui a besoin de retrouver une mémoire. Je pense que la notation peut participer de ça. Ouais.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date nous pourrons voir votre dernière création, Les Nuits à Paris ?
Eh bien, la semaine prochaine, à la Maison des Arts de Créteil, pendant toute la semaine.
Bon. Bon,
il n'y a plus de place, déjà.
Il n'y a plus de place, mais ça peut être très étonnant.
Bon. Ah, il y a Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis ensuite il y a Caen, je crois. Alors, il y a Créteil, Caen et Saint-Quentin-en-Yvelines, et tout ça dans le mois qui vient, en fait.
Bon.
Et à Chaillot, au mois de janvier, tout le mois de janvier.
Très bien. Et nous irons tous, c'est certain. Merci beaucoup, Angelin Poche-Jocage.
Merci à vous.